Alors, l'expérience des Talking Heads, c'est une expérience qui a été menée par Luke Stills, Frédéric Kaplan et d'autres ensuite, fin des années 90, début 2000, et qui vise à faire émerger un lexique de mots partagés entre différents agents robotiques qui interagissent les uns avec les autres dans un environnement. Donc, de faire émerger un langage. La première couche du langage, c'est-à-dire le lexique, l'association mots et concepts visuels. L'expérience est articulée autour du concept de jeu de langage qui a été imaginé par le philosophe Wittgenstein et qui met en place, donc un jeu de langage, met en place une interaction conventionnalisée entre deux agents, une interaction autour du langage. Alors, par exemple, le jeu de devinette. Donc, dans ce jeu, vous avez deux agents qui regardent une scène. Dans l'expérience des Talking Heads, il s'agit de deux caméras qui regardent un tableau blanc avec des formes géométriques dessinées sur ce tableau, des triangles, des ronds, des carrés, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, et disposées un peu au hasard sur le tableau. Et le jeu de devinette consiste à ce que l'un des agents, qu'on va appeler le speaker, le locuteur, choisisse un des objets au hasard, ou peu importe, prononce un mot qui décrit cet objet, et l'autre agent, qui n'a pas accès évidemment à ce qu'il y a dans la tête de son partenaire, doit deviner, en entendant le mot, de quel objet est-ce qu'il s'agit. Donc c'est un jeu de devinette. Et puis il lui montre ensuite cet objet, et le jeu est un succès s'ils avaient pensé au même objet, et c'est un échec si ça n'a pas fonctionné. Donc ça c'est un jeu de langage, un jeu de devinette, et c'est le cadre dans lequel se passe cette expérience. Alors chaque agent a dans sa tête un lexique qui est en fait un ensemble d'associations entre un symbole, un mot, qui peut être n'importe quoi. Donc les mots sont générés au hasard, hein, ça n'a pas d'importance que ce soit des mots qui soient en anglais ou en français. Donc c'est vraiment une langue originale qui apparaît, hein. Donc a dans sa tête une association entre des symboles et des percepts visuels. C'est-à-dire que l'agent est équipé d'un système très simple de perception qui va être capable d'extraire de l'image qui est en face de lui des informations sur les formes géométriques qui sont disposées. Par exemple, pour une forme donnée, hein, sa couleur, sa taille, sa disposition dans l'espace, est-ce qu'il est plutôt en haut, en bas, à droite, à gauche, ce genre de choses. Donc des choses assez simples qui sont extraites automatiquement de la perception. Et donc qui représentent de manière plus abstraite, plus simple, le flux de données qui provient des caméras. Et donc chaque agent a dans sa tête un ensemble d'associations entre des mots et un ou plusieurs concepts visuels. Par exemple, un mot va être associé à la couleur rouge ou à la conjonction de la couleur rouge et du fait que l'objet est en haut ou grand et vert, hein, par exemple. Donc un ensemble d'associations entre des percepts visuels élémentaires et un symbole. Alors c'est pas une association bijective, c'est-à-dire un à un, puisqu'on peut avoir un symbole qui est associé potentiellement deux fois avec deux ensembles de percepts visuels. Par exemple, un même mot peut désigner rouge et grand, par exemple. Cette association va se faire avec des poids différents. Donc, il y a une valeur qui mesure l'importance d'une certaine association. Donc, quand vous avez plusieurs associations en concurrence, vous avez un gagnant. Et puis inversement aussi, vous avez un même concept visuel qui peut être associé à plusieurs mots. Donc la notion de rouge peut être associée à un mot ou à un autre. Donc vous avez en fait un ensemble d'associations, mots, symboles, sans aucune limitation particulière. Et au début, les deux agents ont la tête complètement vide, donc il n'y a aucun symbole, et le jeu démarre. Alors le speaker, le locuteur, va choisir une forme géométrique au hasard devant lui sur le tableau. Et la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de distinguer parmi l'ensemble des percepts visuels qui caractérisent cet objet, cette forme qu'il a choisie, de trouver les concepts visuels qui le distinguent de tous les autres. C'est une façon de le caractériser dans l'image. Pour être très concret, si toutes les formes géométriques sont rouges, à exception d'une qui est verte, et que c'est justement cette forme-là, verte, que l'agent initial, donc le locuteur, veut parler. La couleur sera un excellent axe, on va dire, de représentation, puisqu'il distingue cet objet-là de tous les autres. C'est le concept de salience. Donc, le premier locuteur va choisir un objet au hasard et va essayer de le caractériser visuellement de la manière la plus efficace pour le distinguer de tous les autres. Parfois, c'est pas parfait, c'est-à-dire que il n'y a pas suffisamment d'informations visuelles pour vraiment les distinguer. Mais en tout cas, il essaie de faire de son mieux. Et puis, donc, il obtient une liste de caractérisations de percées visuelles. Par exemple, bon, il a trouvé que le fait que l'objet est rouge et petit, c'était assez discriminant par rapport à tous les autres objets, et que rouge et petit, ça permettait de bien identifier l'objet qu'il avait désigné parmi tous les autres. Et il va chercher dans son lexique si le concept de rouge et petit est déjà associé à un certain mot, à un certain symbole. Alors au début, il n'y en a pas, donc il va en créer un au hasard. Hein, il va créer un nouveau mot qu'il associe à rouge et petit. Ou alors, un peu plus tard dans le jeu, peut-être que cette association existe, c'est-à-dire que rouge et petit est associé à un ou plusieurs mots, déjà. Et là, il va choisir tout simplement l'association qui a le poids le plus important, celle qui est la plus forte. Et donc ça, ça lui donne un mot. À partir d'un objet, il a choisi une représentation visuelle qui le distingue des autres, et à travers son lexique, il aboutit à un mot, soit un nouveau mot, soit un mot qui était déjà dans sa mémoire. Et il prononce ce mot. L'autre agent entend ce mot et va faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il va regarder dans son lexique à lui si ce mot a déjà été prononcé, s'il l'a en mémoire. Si c'est le cas, eh bien, il va aller regarder la caractérisation géométrique, la caractérisation visuelle qui lui est associée. Peut-être que ce mot, pour lui, désigne un objet en haut, hein, la partie haute de l'image. Ou peut-être ce sera rond et petit, ou rouge et petit. Hein. C'était ce que j'avais choisi pour le premier... Pour la première caractérisation du locuteur. Donc ça peut être la même chose que le locuteur ou autre chose. Peu importe, en tout cas, il va retrouver à partir de son lexique, pour ce mot donné qu'il vient d'entendre, une certaine caractérisation visuelle qui va lui permettre de localiser un objet dans l'image. À partir du moment où je dis rouge et petit, ça désigne un ou peut-être plusieurs objets dans l'image. Si je dis en haut, il y en aura peut-être un ou plusieurs. Et donc, s'il y en a plusieurs, il en choisit un au hasard. Et s'il n'y en a qu'un, eh bien, il a pas d'ambiguïté. Et il va pointer cet objet pour que le locuteur puisse dire oui, c'est effectivement de cet objet que j'étais en train de parler, ou bien non, c'est pas le cas. Il y a un cas dont j'ai pas parlé, c'est si au moment où le partenaire entend le mot, il n'a pas déjà ce mot dans son lexique, en particulier au début, hein, il n'y a rien, mais ça peut arriver à tout moment hein, dans le cours de l'expérience, il n'a pas ce mot, donc il va à ce moment-là, il garde ce mot et il va créer une association avec un percept visuel en essayant de deviner dans l'image quel pourrait être l'objet dont l'autre parle. Alors ça peut être parce que c'est un objet, par exemple, qui n'est pas couvert par les ensembles de perceptions dont il dispose déjà, donc c'est un objet candidat à être une nouvelle représentation ou toute autre stratégie. Donc il va créer ex nihilo quelque chose. Peu importe que ce soit parfait, qu'il y ait une bonne devinette, ce qui est important, c'est qu'il crée quelque chose et qu'il l'essaie ensuite en proposant sa réponse au locuteur qui va lui dire bon ou pas bon. Si c'est bon, eh bien les deux partenaires vont renforcer le poids, l'association entre le symbole et la représentation qu'ils ont utilisée dans le cours de l'expérience, soit du point de vue du locuteur, soit du point de vue de son partenaire, au moment où ils essaient de résoudre dans un sens le problème de la perception vers le symbole et dans l'autre du symbole vers la perception, soit si c'est un échec, eh bien ils vont baisser le poids de cette association qui avait servi dans l'interaction. Et voilà, le jeu reprend et on le fait de plusieurs itérations. Et en fait, ce qu'on observe au bout de quelques milliers d'itérations, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une convergence des lexiques. C'est-à-dire que, d'une part, les deux agents finissent par avoir à peu près les mêmes mots pour décrire à peu près les mêmes concepts visuels. Il n'y a pas une adéquation parfaite. C'est exactement la même chose dans la réalité des langues. Hein. On a, par exemple, on a parlé tout à l'heure du mot « intelligence ». C'est pas un mot qui est très facile à définir et ce qui s'allume dans la tête d'un interlocuteur quand je dis le mot intelligence, ce qu'il a dans sa tête comme définition, pas forcément la même que la mienne ou que quelqu'un d'autre. C'est vraiment un problème qui en fait est au cœur du langage, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, globalement, à quelque chose près, on a une adéquation entre les deux lexiques, c'est-à-dire que les deux agents partagent les mêmes mots pour décrire les mêmes percepts visuels. Ça, déjà, très intéressant. Et le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que les concepts visuels qui ont été ancrés par ce mécanisme sont des concepts visuels qui sont pertinents pour la tâche qui est le jeu de devinettes auquel ils étaient en train de jouer. C'est-à-dire que si tous les objets sont rouges, par exemple, quand bien même leur système de perception est capable de distinguer les couleurs, ce ne sera pas utilisé et ça n'apparaîtra pas dans les représentations, donc dans les associations entre des mots et des percepts qui sont dans le lexique. Ces représentations, la couleur rouge ne sera pas utilisée, tout simplement parce qu'elle ne fonctionne pas pour permettre de jouer à ce jeu. Tout est rouge, donc si je dis l'objet rouge, en moyenne, je ne vais pas faire mieux que le hasard quand je vais essayer de répondre, de jouer au jeu de mon côté et de désigner un objet. Donc ce qui est très intéressant, c'est que les percepts visuels qui sont sélectionnés sont ceux qui sont utiles et pertinents pour la tâche, bien sûr ancrés dans l'environnement. On a un lien direct avec la réalité et la situation dans laquelle se trouve le robot. Cette expérience a été réalisée de manière un petit peu plus complexe en termes de protocole d'interaction, puisqu'il n'y avait pas uniquement deux caméras, deux robots, mais une population d'un millier de robots qui s'incarnaient à tour de rôle dans des dispositifs robotiques, par exemple des caméras, pour jouer un tour, on va dire, du jeu de devinette ensemble. Et ensuite, ils se délocalisaient et un autre, enfin se désincarnaient plutôt, et un autre couple d'agents prenait place pour jouer. Donc, c'est-à-dire que les agents jouaient pas systématiquement avec les mêmes partenaires. Donc, il y a un vrai brassage. Et les résultats sont les mêmes. On obtient une convergence du lexique, c'est-à-dire on crée une sorte de communauté d'agents qui partagent un ensemble de mots pour désigner à peu près les mêmes concepts visuels, donc des mots qui ont le même sens, au sens justement de l'association entre le symbole et le percept. Donc ça, c'est très intéressant. Ça fournit même en fait une sorte de modèle de l'émergence du langage. Quand on met par exemple un agent vierge qui n'a aucun lexique, on le plonge dans une population d'agents qui ont déjà convergé vers un lexique partagé. Cet agent vierge va très rapidement acquérir le langage qui caractérise cette communauté d'agents qui s'est déjà partagé. C'est exactement ce qui se passe quand un nouveau-né arrive voilà, dans une famille et il va apprendre, bien sûr, la langue de la famille, du pays dans lequel il se trouve. Il va aussi l'influencer un tout petit peu. Il y a une très légère influence, mais elle est vraiment en proportion, je dirais, d'une personne versus potentiellement des milliers ou des millions d'autres qui ont déjà par ailleurs convergé sur des conventions entre un lexique d'une part et des représentations d'autre part. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante parce qu'elle aborde beaucoup des questions liées à l'ancrage des symboles dans la perception de manière dynamique. De manière un peu évolutionniste aussi, puisque le mécanisme par lequel les symboles sont associés à des percepts est un mécanisme en fait de sélection où la sélection naturelle, si vous voulez, s'exerce à travers le succès de communication. Donc c'est pas le succès de reproduction comme pour la génétique, mais là c'est le succès de communication. Les mots qui, plutôt les associations entre des mots et des concepts visuels qui permettent de bien communiquer sont renforcées et les autres ensuite sont diminués. Il y a un mécanisme d'élimination aussi qui fait que quand un couplage entre un mot et un concept visuel n'est quasiment jamais utilisé, ne fonctionne pas, il va être effacé du système. Donc on a un mécanisme évolutionniste qui préside à l'émergence d'un lexique partagé entre une communauté d'agents. C'est une expérience vraiment clé et assez structurante pour la suite.